Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien!
Bonsoir, bonsoir, et on m'entend bien respirer quand je... comme ça au début. Et c'est la causerie qui démarre, parce qu'on est dimanche, qu'il est 22h et que vous êtes sur les ondes de Radio Canu ou sur radiocanu.org et que vous avez décidé de faire autre chose que de ne rien faire de votre dimanche soir et de passer un petit moment avec nous, et on vous en remercie. Et ce soir à la technique, on a la présence lumineuse de Clara.
Bah merci, bonsoir.
Dans les studios, on a la présence ténébreuse de Jean-Yves.
Bonsoir. Et la présence... Je sais pas.
C'est dur.
En tout cas, Fabella.
Elle a merci. Bon. Bonsoir. Donc, et ben une causerie ce soir un peu particulière, parce que c'est une causerie un peu culturelle.
On va, c'est voilà. Déjà arrivé.
C'est déjà arrivé,
ça,
oui.
Ceux mais... qui nous écoutent sont habitués à...
C'est vrai.
À passer du coq à l'âne.
Mais voilà, du coup, ce soir, on va parler un peu culture. Et on va commencer avec toi, Jean-Yves, car tu avais envie de nous parler d'un film sur quelqu'un d'assez étonnant.
On peut dire ça.
Je fais très mal, hein, au demeurant.
Oui, mais oui, c'est pas grave.
J'ai pas reconnu, moi.
Oh, tout
quoi
de suite, qu'est-ce qu'elle est.
Tu n'as pas reconnu.
Dali. Alors, effectivement, ce soir, hein, je vais vous parler d'un film, donc Dali. T'as tout niqué. Bon début. Bon, c'est pas grave. Et je vous invite effectivement à aller au Cinoche, hein, parce que le film il est sorti le 7 février. Autant dire que là, ça fait 3 semaines. Faut peut-être pas déconner, il va peut-être pas rester 3 mois en salle, donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Et donc, comme disait Fab, oui, en tout cas, comme je le disais à la réponse de Fab, à la question de Fab, le film c'est donc Dali, avec 6A, s'il vous plaît, hein, parce que voilà. Et c'est donc de Quentin Dupieux. Alors, quelques petits mots sur Quentin Dupieux quand même, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Les plus anciens, ou en tout cas celles et ceux qui peuvent être branchés musique électro, vous connaissez très certainement Mister Oiseau. Eh ben, c'est Quentin Dupieux.
Oui, qu'est-ce que c'était bien.
Oui, mais
Marionnette jaune.
Voilà. Parce que Clara, elle a l'air absente. Mais toi, c'est... ouais, tu vois qui c'est.
Oui, oui.
Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, ok.
Non, mais je suis. Hein.
Ah non, mais ses titres, ils rendaient fou.
Oui,
ouais, vraiment, j'adorais.
Mais après, il a plein d'albums à son actif.
Oui, oui.
Le dernier est sorti il y a quelques années. Enfin, il continue de faire de la musique.
Enfin, hein, j'aurais dû dire ses titres rendent fou.
Oui,
parce
ok.
Parce pas
que c'est
passé,
vrai que mais... moi, j'ai quand même celui avec.
Ouais, mais ça, c'est ton côté. C'est mon adolescence, c'était bien.
C'est ça. Donc, bref. Sinon, le monsieur, hein, Quentin Dupieux, est aussi scénariste et réalisateur. Là aussi, pour celles et ceux qui pouvaient ne pas le savoir, avec une dizaine de courts-métrages à son actif, hein, depuis 1980. 15, je crois que le premier court-métrage s'appelait Non Film, si je me plante pas. Et Steak est son premier long-métrage, hein, qui date de 2007. C'était avec Eric et Ramzy, si je me plante pas, Steak. Et Dali, dont je vous parle ce soir, est son 12e long-métrage.
Steak, personnellement, il faut voir pour au moins une réplique. Celui qui perd est fan de Phil Collins. Voilà.
Ouais. Okay. Ça donne le niveau. Ami du masque et la plume, bonsoir. Alors, pour en venir au film, hein, vous avez évidemment compris que ça parle de Salvador Dali. Mais je préviens tout de suite, hein, que celles et ceux qui s'imaginent un biopic... Laissez tomber direct l'idée, hein, on n'y est pas du tout là. Hein. Ce que nous propose Dupieux, c'est un film, selon moi, hein, à l'image de l'art surréaliste de Dali. Alors déjà, Dupieux, hein, t'as pu donner un petit, une petite touche comme ça, par une réplique d'un film, puis déjà le nom, Steak, enfin bref, il a un ciné vraiment à lui, hein, je veux dire, des films avec des scénarios assez originaux, hein, il a un monde, un univers bien à lui, assez barré, assez drôle aussi par moments, enfin c'est, voilà, c'est vraiment un univers.
Et pas toujours drôle.
Non, pas toujours.
C'est Dupieux, on le réduit souvent à être marrant, mais je trouve que dans ces films, bah, des fois, il n'y a pas que de l'humour, il y a aussi des moments touchants, il y a aussi de la réflexion, il y a, oui, il y a des trucs dénoncés, enfin voilà.
Ouais, c'est ça. Alors, pour donner un exemple, hein, d'un autre film, je vous donne le court résumé de son film Mandibule. Celui-là, vous en avez peut-être entendu parler, hein, qui était sorti en 2020. Donc, le synopsis, hein, le résumé, c'était « Deux gars découvrent une mouche géante dans le coffre de leur voiture et tentent de la dresser pour se faire du fric ». Ouais, je vous avais dit, un univers vraiment bien, bien, bien à lui. Alors bon, bah forcément, je me suis dit, tiens, l'univers de Dupieux qui rencontre l'univers de Dali, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Alors pour Dali, hein, pour Dali, le synopsis est le suivant. Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Voilà, merci, bon film et à bientôt. Non, je vais en donner un petit peu plus quand même. Alors, on va donc, hein, être aux côtés de cette journaliste, Judith, interprétée par Anaïs de Moustier. Alors, elle, Anaïs de Moustier, alors, Quentin Dupieux, il a quand même pas une garde rapprochée, je trouve ça mauvais, mais comme expression, mais il a un
des
peu
fidèles.
Ses acteurs et,
ouais,
vraiment
fidèles,
fidèles. Et Anaïs de Moustier, c'est son quatrième film avec elle, hein, on l'avait déjà vu dans... Fumé fait tousser.
Ouais, ça aussi, c'est un film très important qu'il faut avoir vu dans sa vie. Non, mais alors, moi, juste quand même.
C'est quand tu donnes le tout. Ouais.
Tu on l'avait vu dans Fumé fait tousser. C'est plus bizarre, quoi. Voilà. Mais elle est dans le dain aussi. Et en fait, du coup, Anaïs de Moustier, moi, je le dis, c'est une des, à mes yeux, une des meilleures actrices en ce moment. Et je trouve qu'elle est beaucoup, beaucoup sous-estimée. Alors, j'adore cette actrice. Ouais. Non, mais c'était juste pour donner mon goût de, pour cette actrice.
Mais tu fais bien. Et donc, Judith, hein, elle rencontre Dali plusieurs fois, hein, et elle tente de l'interviewer. Hein. Mais elle est souvent éjectée par Dali parce qu'elle est au choix, hein, venue d'interviewer. Je vais pas faire l'accent, même si ça me dérange.
Si, vas-y, fais-le. Non, non. Mais si, il faut le faire. Quand on a vu ce film, il faut faire Dali.
Sans matériau cinématographique. Voilà. Donc une caméra, hein, elle n'avait pas de caméra, elle est complètement dingue. Dali ne veut parler que devant des caméras. Hein.
Et grosse.
Et oui. Grosse ou gigantesque. Pardon. Ou parce qu'elle est aussi mal habillée. Oui, parce que lui, en fait, il se permet d'avoir un avis. Enfin, c'est voilà.
Oui, il est d'ailleurs assez détestable, ce Dali.
J'en parlerai plus tard, mais oui, c'est ouais. Dès le plan d'ouverture, hein, on plonge vraiment dans un monde surréaliste avec la mise en mouvement d'une des œuvres de Dali qui s'appelait Fontaine nécrophilique coulant d'un piano à queue, qui doit bien durer à peu près 2 minutes sur une musique lancinante que vous aurez la chance d'entendre après. Ce petit sujet. Autant dire, c'est un piano en fait qui est posé comme ça dans une sorte de désert, qui a de l'eau qui coule de lui.
C'est une fontaine sans fin en fait.
C'est une fontaine sans fin, ouais. Et avec un arbre, je crois, si je me souviens, ouais, bien, dans le piano. C'est tout à fait logique. Alors autant dire, hein, de suite, hein, clairement, il faut lâcher tout repère logique, sensé, matérialiste. Si vous voulez apprécier ce film, en tout cas vous laissez une chance de rentrer dans le film en fait. Hein. Alors moi le surréalisme, ça l'a encore, là encore une fois, hein, c'est très intéressant, très intéressant, pas que je trouve le film surréaliste, mais de voir ce qu'on peut en avoir comme retour comme spectateur, spectatrice, et ce que l'auteur peut, le réalisateur peut dire là-dessus. Donc moi je l'ai vu effectivement aussi surréalisme dans l'incarnation du personnage, hein, qui est interprété par pas moins de 6 acteurs. D'où les 6 A dans le titre. Hein.
Ah, heureusement que c'était pas plus, parce qu'il y aurait eu un long titre. Hein,
au départ, il devait être plus. Hein. noir à longe. Alors, les six acteurs, c'est Édouard Baird, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaille, Didier Flamand et Boris Gillot. Je crois que ce dernier fait vraiment une apparition de quelques secondes,
oui,
si je ne me trompe pas, dans le film. Mais c'est important de le citer quand même. Et pour Dupieux, lui, justement, à l'inverse, pour lui, il n'y avait pas de notion de surréalisme. Pour lui, en fait, ces six acteurs servent à appuyer le côté d'Ali, en fait, ses deux moustaches en l'air, des grands yeux et un accent. Dali a réussi à s'inventer comme un déguisement. Tout le monde est Dali et personne ne l'est. Et effectivement, ça se tient aussi, en fait. Et justement, c'est ce qu'il dit aussi, c'est que Dali, c'est vraiment un des premiers qui a compris tout ça, en fait, qui a su créer...
Le monde de l'image, ouais, le star system.
C'est exactement ça. Alors si au début, on peut être un petit peu perturbé par ce choix d'acteurs multiples, on peut l'être ou pas. Dupieux, je pense qu'il nous invite juste à lâcher prise, en fait, et vraiment, et c'est ce qu'il dit, à se rappeler qu'en fait, on n'est pas dans un biopic.
Ah non, clairement pas.
C'est pas du tout son envie, et c'est ce qu'il dit dans une interview, c'est qu'en fait, pour lui, en fait, arriver à incarner un personnage comme ça, vraiment, etc. En fait, pour lui, ça tient quelques minutes, une dizaine de minutes. Mais il pense qu'on ne peut pas tenir sur une heure, voire plus, avec un personnage comme ça. Parce que pour lui, c'est aussi justement une démonstration de la difficulté d'incarner, en fait, Dali, en fait, quoi.
Et puis c'est vrai que les biopics, enfin, moi, je rejoins Dupieux là-dessus. J'aime bien les biopics, pourtant, j'en ai vu, pas de souci. Mais c'est vrai qu'assez vite, comme il le dit dans une interview, au bout de 10 minutes, on cherche ce qui différencie l'acteur de la personne qu'on connaît. Parce que souvent, quand on va voir un biopic, c'est soit qu'on est fan, soit qu'on connaît la personne.
Alors que là... Voilà.
Et en fait, c'est vrai que il a raison, cette notion, ça dure 10 minutes. Du coup, les 10 premières minutes du film, on est un peu bluffé. On fait, waouh, ouais, il y a quand même une sacrée ressemblance. Puis au bout de 10 minutes, on se dit, ouais, mais enfin, quand même, il n'avait pas les yeux bleus. Ah tiens, il était un peu plus grand. Ah tiens, voilà. Et en fait, ça marche, mais sans marcher. Et je vois ce que veut dire Dupieux, c'est-à-dire que ouais, ça fonctionne, mais c'est pas non plus fabuleux. Et je sais qu'il a été critiqué parce que, comme en France, un des rares films qui a eu un Oscar à Hollywood, c'est La Môme, donc qui était quand même un biopic avec Marion Cotillard. Bah, tout le monde dit oui, mais il critique encore le cinéma. Mais je pense qu'il a pas tort dans La Môme. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Par contre, très clairement, au bout de à peu près 10 minutes, on se dit bah c'est Marion Cotillard.
Pas oui, grave, hein.
Elle le fait très bien, mais voilà, c'est tout quoi.
Oui, en même temps, c'est compliqué.
Oui, tu peux pas. Tu peux pas être un personnage. Du coup, son choix de six acteurs est hyper pertinent, parce que même ceux qui sont très mauvais en Dali, restent Dali.
Oui, il y a un truc dans le genre, quoi. Donc le film instituera ainsi dans un surréalisme quasi ininterrompu, du début à la fin, avec comme une impression finalement d'être dans la tête de Dali créatif. Comme si son monde, son univers artistique prenait vie, comme si tout était surréaliste, surréalisme, de la longueur d'un couloir à la météo canine. Ça, vous comprendrez si vous allez voir. En tout cas, selon moi, ce sont des scènes mythiques. Vraiment mythiques. Pardon. Et je vous parle pas des scènes qui recommencent et recommencent et recommencent, ou des scènes qui se déroulent à l'envers. Non, je vous en parle pas. Alors, on en arrive effectivement à un moment donné quand même à se demander ce qu'on est en train de regarder. Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est un film dans un film ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est un rêve dans un film ? Qui est dans un film ? C'est vraiment, je vous ai prévenu, c'est assez barré. Et moi, en tout cas, j'adore ça, quoi. Donc vraiment, là, j'ai été vraiment ravi de ce film.
Il y a un côté grand 8. Moi, c'est ce que j'aime. Alors, les films de Dupieux ont souvent des moments un peu comme ça, mais là honnêtement c'est un des premiers Dupieux que je vois où c'est un grand 8 du début à la fin, c'est-à-dire que bon, c'est pas où on va, il y a des virages où on s'y attend pas forcément, il y a des gags qui apparaissent un peu malgré eux, il y a des moments aussi où je trouve parfois plus sombre, parce que je trouve qu'il fait pas non plus un truc trop positif totalement sur Dali. Et en fait c'est un grand 8, quoi. Et c'est super plaisant, je trouve, des fois, d'avoir un cinéaste qui se dit je vais pas t'expliquer ce que je fais, tu t'embarques ou pas, et puis débrouille-toi, quoi.
Oui, et puis ça arrive d'être face à l'image et de dire mais qu'est-ce qui se passe, en fait,
c'est ça, ouais.
Et que bon, on se dit ok, c'est pas grave, laissons-nous emporter, quoi. Mais par contre, ce que j'ai aussi apprécié, c'est que justement, par moments, on sort de surréalisme sans vraiment en sortir, mais en tout cas, il y a des instants où on est dans une vie, on va dire, quotidienne, en tout cas dans un rapport plus d'humain à humain, et ce qui amène un regard plus critique, justement, je rejoins ce que tu disais, Fab, ou plus humain ou plus terre à terre, en fait, sur Dali,
l'homme,
l'humain.
Voilà.
On peut voir un être insaisissable. et c'est aussi une mise en abîme, enfin c'est quelque chose qui est mis en abîme dans certaines scènes. Effrayé aussi par le vieillissement, effrayé par la mort, on sent bien qu'il y a un truc qu'il travaille beaucoup. Mais c'est aussi un personnage infect, hein, quand même, à l'ego surdimensionné, ça vraiment, je pense qu'on peut le dire. Parlant de lui-même à la troisième personne, hein, effectivement, du singulier.
Avec un rapport à sa femme assez particulier.
Oui, justement, j'en parle un petit peu après. Qui aime se savoir désirer, hein, par les médias par exemple, et qui aime aussi être. Qui est aussi, pardon, un être autoritaire, méprisant, un but de lui-même. Voilà, quoi. C'est vraiment... je trouve que c'est pas une ode à Dali, quoi.
Non,
je trouve que, justement, il y a quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, pardon, je l'utilise beaucoup ce mot ce soir-là.
Oui, il a l'air intéressant, ce film.
Oui, c'est vrai. c'est l'incarnation de sa femme, hein, par Catherine Chaube Abkarian. Très effacée. Et en même temps... avec un artiste qui prend autant de place, à mon avis, ça doit être très compliqué. Vraiment. Et elle parle quasiment pas dans le film. Enfin bon, je sais pas trop vous en dire, mais quand même. Et par touche aussi, il y a cette période, hein, qu'on peut se dire qu'elle est en train de se fissurer, où l'artiste peut tout faire, hein, tout demander. C'est normal. C'est un artiste. Hein, c'est un truc qu'on entend encore aujourd'hui, même si on a un peu plus d'avis critique sur c'est un artiste.
Alors peut-être que je me trompe, mais pour moi, Dupieux fait une scène très forte qui justement...
C'est ce que je me disais. C'est, ce côté, justement, il est démontré par même quand il fait poser des gens dans des conditions de merde, ou qui, par exemple, aussi plotte les seins d'une femme, hein, ou encore quand il roule en Rolls-Royce sur une plage. Parce qu'il l'a décidé. C'est un artiste, enfin. Et ça, je trouve que c'est vraiment, c'est que j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, faut que j'arrête avec ce mot. Pardon. Et d'ailleurs, c'est là aussi où moi, ça m'a vachement étonné qu'en fait, le scénario, il a été validé. Alors, ça, je savais pas au départ non plus, mais il a été validé, en fait, par la Fondation Dali. Et je me suis dit, tiens, surprenant. Qu'une fondation qui est là quand même pour défendre, on va dire, l'œuvre de l'artiste et sûrement quand même un peu l'artiste, laisse passer ce truc-là. Et ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai lu une critique dans un journal d'art et qui disait « Mais enfin, Dali n'était pas que ça. » Et je trouve que c'est marrant parce que le film, c'est pas que ça, mais il y a aussi de ça. Et ceux qui sont, on va dire, des forçats de l'art, avec un grand A.
Défenseurs de l'œuvre.
Oui,
plus que. Voilà.
Ouais, et bien justement, ils disent oui, mais quand même, c'est pas bien. Et tu dis, mais. Enfin, aujourd'hui, comment on peut arriver à passer à côté aussi, justement, juste pas que des œuvres qu'un artiste ou une artiste fait, mais aussi de ce qu'est l'artiste, quoi. Enfin, je trouve que c'est.
Ouais, puis ça démontre un paradoxe. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est intéressant quand on arrive à rappeler que. Des grands de l'art, des grands de la musique, de l'art en général, des arts, en fait, pouvaient être des parfaits salopards ou des parfaits égotiques ou des
c'est
parfaits.
Exactement ça.
Et qu'en fait, c'est important de le savoir. Alors, non pas. Après, moi, je suis partisan du fait qu'après, on fait ce qu'on veut dans sa vie. Moi, il y a des gens qui veulent plus voir tel artiste parce qu'ils estiment que très bien. Moi, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un avis, puis de se dire, moi, je veux plus cautionner tel artiste. Mais après, je trouve que c'est bien aussi quand on fait un film comme celui de Dupieux. De pas passer à côté. Moi, j'avais cette crainte,
c'est ce que je me suis
justement, qu'il montre pas ce côté-là, parce que il y a pas mal de gens qui ont parlé de Dali, notamment je pense à Amanda Lear, qui a été la muse de Dali pendant 20 ans. Alors on va le rappeler, elle n'a eu aucune relation avec Dali. Elle était la muse au sens du meuble, hein, c'est-à-dire qu'il lui demandait tu t'assois là, tu te mets à côté de moi, tu manges tes pâtes là parce que ça m'inspire. Enfin, c'était pas une position enviable sans être. Enfin, comme disait Amanda Lear, elle vivait dans le luxe parce que c'était Dali, hein, qui n'était pas pauvre, et puis en même temps, elle n'avait pas vraiment de vie, donc c'était un peu étrange, et puis qu'il y avait la jalousie de la femme de Dali aussi, qui était à gérer, qui était un peu compliquée, et puis elle qui supportait plus son mari aussi, enfin bref, elle expliquait ça, et je vous invite à écouter ce qu'elle a dit, ou lire ce qu'elle a pu écrire là-dessus, mais par contre c'est intéressant parce qu'elle en a parlé, donc ça aurait été bizarre, je trouvais que Dupieux, moi j'aurais été un peu déçu que Dupieux ne l'aborde pas au moins en filigrane, en disant attention, il y a quand même un côté aussi chez Dali, ultra excessif, ultra égotique, comme tu le disais, et qui le rend parfaitement détestable par moment.
Clairement,
quoi.
Et puis je reprends les mots, parce que vraiment ça m'a marqué, justement, je trouvais ça intéressant qu'elle le dise, les mots de Amanda Lear, c'était Dali était un tyran.
Oui, c'est ça.
Donc,
ce qu'on voit dans le film, d'ailleurs,
il
le cache pas. Hein.
Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Alors que lui, vraiment, il te dit, moi c'est une œuvre, un peu, pas une ode, mais c'est une œuvre avec Dali. Et donc tu peux te dire, bah tiens, ça va être que, on va dire, que du cirage de pompe, alors que non, et je trouve ça vraiment intéressant. Et le côté critique, pardon, hein, bah, on le trouve aussi concernant le producteur, joué par un certain Romain Duris.
Mais Dupieux a un compte à régler avec le milieu du cinéma, ça, ça on a bien compris.
C'est vraiment aussi, là c'est par petites touches, hein, parce que c'est le producteur, on le voit pas non plus tout au long du film, mais quand même. Quoi.
C'est Romain Duris et, ouais. Et il est particulièrement...
détestable.
Voilà. Voilà, c'est le beau, c'est vraiment...
Bon, au fur et à mesure, quoi.
Ouais.
Enfin bref, je vais m'arrêter là, donc courez-y si vous êtes curieuses et curieux, et si vous aviez, et si vous avez envie d'être embarqué pour 1h18 dans un univers vraiment tout à fait particulier. Et puis ben, n'hésitez pas, hein, si vous y êtes allé, si vous avez des avis, si vous avez envie de partager votre avis avec la causerie, vous savez où ça se passe,
bah, la causerie
gmail.com
ou le blog,
c'est tout à
c'est
fait
encore
ça.
Mieux le blog de la causerie,
c'est ça, donc ouais. N'hésitez pas, donc je rappelle, hein, c'est Dali de Quentin Dupieux, encore en salle pour quelques jours.
Ouais. Moi je voulais juste, j'avais envie de dire, bah, en fait Dupieux c'est le genre de réalisateur, ça passe ou ça casse, il y a beaucoup de gens chez qui
Dupieux, bah, ça peut pas te laisser indifférent.
Voilà, ouais, ça, c'est,
t'aimes ou t'aimes pas, mais
voilà, il y a un côté comme ça. Et en fait, en ce moment, il y a un peu, je le dis avec mes mots, je fais ça exprès, il y a un peu un Dupieux bashing, je vais dire ça comme ça, parce que ça fait trois films qu'il arrive à faire bien marcher, et notamment celui d'avant, c'était Yannick. Et en fait, et bah du coup, quand les gens qui sont un peu hors norme, hors case du cinéma, commencent à marcher, bah en fait, ouais, on vient leur dire oui, mais finalement. Il invente rien, il réutilise tout. Et en fait, moi, je vous invite vraiment à écouter Dupieux, c'est parce qu'il fait des interviews, il en écrit aussi. Il a toujours dit, moi, j'invente rien, j'utilise ce que je sais faire et j'essaie de faire ce que j'aime. Et je trouve que bah, c'est rien que ça, c'est cool et que ça fait du bien d'avoir justement, je trouve, un réalisateur qui accepte de pas être forcément dans les codes, de faire des trucs un peu étranges et puis que des fois ça passe pas, puis c'est comme ça. Et puis qui des fois prend aussi des acteurs qu'on n'imaginerait pas dans certains films. Moi, tu parlais de Mandibule. Moi, j'ai trouvé génial qu'ils prennent le Palmachot pour les mettre comme acteurs principaux. Et finalement, il est fait quand même entouré d'Adèle Exarchopoulos, qui est quand même pas
voilà,
qui est une actrice phénoménale et géniale. Et ils sont au milieu de ce truc-là. Et en fait, ça marche parce que c'est Dupieux. Parce que justement, cet univers est suffisamment barré pour que tout fonctionne à peu près et voilà, et c'est des films extrêmement écrits ou extrêmement réfléchis, et en fait voilà, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui propose autre chose et qui le fait en plus sans se la péter, quoi, parce que y en a qui le font puis après ils deviennent Dali,
et puis il a un peu un côté aussi artisan du
ouais
coup,
c'est
quoi.
Ça ouais je trouve, mais il fait tout, il fait le montage,
il fait tout, ouais, il fait la réalisation, le scénario, le montage, enfin tout, la musique pour certains films,
pas
etc,
toujours,
etc. Pas toujours,
parce que là justement c'est pas lui,
c'est tout à fait ça, là c'est pas lui, je vais pas vous dire tout de suite qui c'est, mais en tout cas c'est la BO du film Dali.
Ah, tu l'as mal, Dali.
C'est vrai,
t'as un petit Dali, non? Non, pas
non.
Dali, pour
non, Clara. Non. Bah donc, pendant
on voulait trois à faire Dali, quoi.
Pendant les quelques minutes que dure, les petites minutes, hein, je crois que c'est deux quelque chose, que dure ce titre, bah, vous pouvez regarder, hein, si le film passe autour de chez vous, n'hésitez pas. Et ben, on se retrouve après la musique. toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie, comme presque tous les dimanches, de 22h à 23h. Et on vient de s'écouter ce titre absolument entêtant, qui s'appelle donc Dali, et c'est un titre de Thomas Bangalter, ex-moitié de...
Un demi des Daft Punk.
C'est ça. Donc voilà, il y a... Ouais, voilà.
Non mais alors moi j'aime beaucoup ce que fait en ce moment de Thomas Bangalter. Okay. Il avait déjà fait des musiques de films seul avant. Il a fait un superbe album de musique classique que je vous invite vraiment à découvrir. Et bah là il est en train de se lancer sur un truc que je trouve assez fou, qui est l'idée de faire de la musique des gens qui savent pas faire de musique. J'ai pas compris quel était le concept, mais ça a l'air d'être sympa.
Bah, il veut faire du punk quoi.
Ouais voilà. Il va se lancer dans le punk. Coucou. Daft Punk, on y revient. Coucou
ça.
Les punks. On vous aime beaucoup. Non, c'est vrai qu'on les aime.
Alors, pour continuer notre soirée, le masque et la plume, parce que vous n'êtes pas sur France Inter, ni France Culture, ni France rien du tout.
Mais on n'a pas de masque.
Sur Radio Canu.
Pas de plume, non.
Et non, du tout. Eh bien, ce soir, Fab, toi, tu vas nous causer d'un bouquin.
Ouais. J'avais envie hein, ce soir de vous parler d'un livre parce que parfois les romans aident à comprendre notre monde et puis en tant qu'anarchiste j'ai parfois du mal à faire comprendre en quoi le premier problème de nos sociétés c'est le pouvoir et sa quête. Pas que le pouvoir politique hein, mais le fait d'en détenir et d'en user sur les autres. On le voit aujourd'hui et notamment avec les vagues MeToo et voilà, on comprend que bah c'est des positions de pouvoir qui aident quand même à maltraiter des gens et voilà. Et voilà donc que je tombe sur un livre au titre sans détour, Le Pouvoir. Voilà. Et c'est un livre quand même qui est une démonstration assez excellente de ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que le pouvoir est le cœur du problème dans nos sociétés. Alors on va parler de ce bouquin ce soir, enfin moi surtout, parce que vous, vous avez peut-être pas envie d'en parler, mais je vais en parler en tout cas.
On t'écoute.
On accueille ce que tu
adores. Donc on va commencer par parler de l'autrice quand même. Donc Naomi Alderman, c'est une autrice britannique. Elle est la fille de Geoffrey Alderman, qui est donc spécialiste de l'histoire anglo-juive et très respecté dans la communauté juive orthodoxe, dont il est un éminent représentant. Alors pourquoi je souligne qui il est ? Parce que Geoffrey Alderman, il est aussi connu en France, parce qu'il fait pour certains qui les auront vus, des conférences sur les relations entre le Royaume-Uni et la communauté juive à travers l'histoire. Voilà. Autant le dire, il est juif orthodoxe, donc c'est un peu un milieu un peu rude, hein, quand même. C'est pas le milieu le plus ouvert.
Non, voilà. On peut dire ça, ouais.
Et autant le dire, hein, Naomi Alderman, elle n'est pas très à l'aise dans cette communauté qui, comme elle le soulignait, n'a pour les femmes qu'une seule vision, celle de mère reproductrice, est là pour tenir le foyer. Bizarrement, elle se voyait pas trop faire ça.
Tant mieux.
Alors, elle a suivi quand même un temps l'autorité de ses parents. Surtout après le suicide de son oncle, hein, qui a choqué tout le monde. Surtout que pour un juif orthodoxe, le suicide, c'est le pire des péchés vis-à-vis de Dieu. Donc ça a un peu choqué toute la communauté et tout ça. Et elle connaissait bien son oncle, elle en était assez proche, donc c'était un peu compliqué pour elle. Mais au bout d'un moment, elle va quand même commencer à remettre en question tout ce qu'on lui impose dans cette société, tous les codes, tous les rites, tout ça. Et notamment quand elle va s'installer à Oxford, où elle est une étudiante brillante. Voilà, elle étudie le féminisme, donc voilà, les religions, l'athéisme, les théories économiques dites divergentes, c'est-à-dire le communisme et le communalisme, voilà, et la politique au sens large, vu qu'elle va s'intéresser aussi bien, comme elle l'écrit dans une interview, à l'anarchisme que au monarchisme, c'est-à-dire qu'elle essaye de regarder les différentes
modes,
sachant qu'elle vient d'une communauté où tout ça, on n'en parle presque pas, c'est-à-dire que voilà, c'est pas, voilà. Donc elle est curieuse, hein, comme le souligne beaucoup d'interviews, ce qui m'a fait rire, parce que quand on cherche des interviews d'elle, ça commence généralement par une autrice très curieuse. Donc c'est marrant, ça doit être. Moi je trouve que c'est une qualité. Peut-être qu'on essaie de lui dire que c'est pas une qualité, mais moi je trouve que c'est bien d'être curieux. Donc voilà. Donc,
ouais. Oui, mais souvent dans les milieux religieux, on peut t'inculquer que la curiosité est un.
Oui, un vilain défaut, par exemple. Ouais, tout à fait.
Donc,
mais du coup, moi je trouve qu'elle a bien raison. Continue. À la sortie de ses études, elle va voyager aux USA hein, pour, comme elle le dira dans une interview, sortir de son carcan. C'est-à-dire, voilà. Et elle va d'ailleurs le dire finalement dans plus qu'une interview, parce qu'elle va finir par le dire dans toutes les interviews. Donc elle va expliquer à chaque fois pourquoi elle est partie aux USA. Et en fait, c'est là qu'elle va rencontrer l'univers d'une série. Oui, ça peut vous paraître étrange, mais elle va rencontrer l'univers de Buffy contre les vampires. Ou en anglais, Buffy is a Vampire Slayer. Voilà, en VO. Oui.
T'es toujours aussi bon en
non,
anglais.
Non, je suis nul. Mais je voulais quand même le dire parce que c'était écrit en VO. Donc la série, elle comporte quand même tout ce qu'on lui a toujours interdit, hein, donc des romances, y compris homosexuelles et lesbiennes, des vampires. Ça n'existe pas, les vampires. Des héroïnes.
Alors que Dieu, oui.
Alors que Dieu. des héroïnes fortes. Et comme elle le dira, Buffy, donc, une femme qui n'a pas choisi son destin, mais qui décide de le tordre selon ses désirs. Voilà, donc, comme quoi la pop culture, ça mène à tout, y compris parfois à se libérer de choses qui nous ont un peu enfermés. Donc, après cette rencontre, hein, elle va prendre une décision. C'est la série qui va lui donner cette envie. Elle sera écrivaine. Voilà. Alors, elle va être écrivaine pour des séries télé, parce qu'elle va écrire notamment plusieurs épisodes de Doctor Who. Et je la remercie parce qu'elle a écrit des très bons épisodes de Doctor Who.
On dit comment en anglais, Doctor Who?
Doctor Who. Doctor Who. Qu'il est bête. Elle prend des cours d'écriture créative à l'université de East Anglia, hein, son retour au Royaume-Uni. Alors, East Anglia, c'est la fac dite ultra woke de l'Angleterre. Vous savez, tous les conservateurs anglais, ils veulent la faire fermer parce que là-bas, on apprend que c'est pas grave d'être homosexuel et que finalement, on a le droit d'aimer qui on veut et puis que la couleur de peau c'est pas quelque chose qui devrait rentrer en ligne de compte.
Ouais. Un drame quoi. Ouh,
truc terrible. Voilà, et en plus de ses cours, elle va donc devenir en fait prof là-bas et elle va donc donner aussi elle des cours et elle va se lancer dans l'écriture de son premier livre. Et son premier livre ce sera le livre qui est sorti en France sous le titre La désobéissance en 2007. Et le sujet de ce livre, bon, un amour lesbien impossible entre deux femmes de la communauté juive orthodoxe. Voilà, orthodoxe juive. Bon, on sent quand même qu'elle a quelques petits comptes à régler, hein, quand même, voilà. Mais c'est un livre très très beau, et vraiment, et alors, j'ai pas vu le livre, mais j'ai vu le film, voilà, donc qui tend à s'adapter, et je vais lire le livre, parce que je me dis si le livre est à la hauteur du film, voire mieux, ça vaut vraiment le coup. Et viendra ensuite un autre livre qui s'appelle Mauvais genre, et qui parle de l'oppression subie par les femmes. Voilà. Donc voilà. Et puis après plusieurs autres livres, elle va sortir donc Le Pouvoir, The Power, en anglais. Oui, non, mais je force le trait là quand même.
Oui.
En 2017, c'est donc en fait le Pouvoir, une dystopie, et ben féministe. Mais oui. Donc on va maintenant parler du livre. C'est quand même bien. Donc le livre, il est écrit comme s'il l'était dans plusieurs millénaires. Oui, nous, vous avez notre époque, vous imaginez, on est dans plusieurs millénaires. Je m'ai dit millénaire, c'est important. Donc, en effet, le bouquin serait d'un certain Neil Adam Harmon. Alors, Neil Adam Harmon, si vous lisez le nom de Naomi Alderman, c'est un anagramme parfait de Naomi Alderman. Voilà. Qui entre. Il entretient une correspondance avec une amie qui s'appelle, elle, Naomi. Voilà, qui se moque de lui, hein, cet ami un petit peu gentiment, car il affirme qu'il y a des milliers d'années, le monde était patriarcal. Voilà. On lit donc le livre d'un historien qui tente de retracer l'histoire du moment de la bascule au travers de plusieurs personnages. Le livre démarre donc, et on apprend qu'à la suite d'une mutation génétique, les femmes découvrent, alors ça se passe à notre époque, à peu près les années 2020, les femmes découvrent qu'elles ont un pouvoir électrique puissant, comme les anguilles, mais en beaucoup mieux. Voilà. Elles ont elles ont le pouvoir de faire fondre le métal, d'amalgamer les percuteurs avec le conduit des canons d'une arme, de faire frire les systèmes électroniques des véhicules. Donc on est un petit peu au-dessus de l'anguille électrique, hein, quand même, et ainsi que de blesser, voire de tuer des gens. Tout simplement. Au départ, quelques adolescentes se filment et les vidéos de leurs exploits deviennent virales sur Internet. Mais le pouvoir, ce pouvoir, s'étend à presque toute la population féminine très rapidement. Voilà, ça c'est le pitch du livre. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut entraîner, c'est d'un seul coup que les femmes puissent décider de pouvoir tuer en face d'elle, voilà, simplement en touchant les gens. Voilà, ça peut paraître simple, hein, mais l'apparition de ce pouvoir va donc du coup renverser l'ordre des choses, bousculer les dictatures patriarcales, faire exploser la peur chez les hommes qui se retrouvent comme plus faibles physiquement que les femmes. Voilà, voilà. Et c'est là que Naomi Alderman est une romancière puissante. Loin de se contenter de se demander ce que cela ferait de se venger pour les femmes, elle pose les bases d'une société qui inverse la charge. Oui, j'ai fait le jeu de mots exprès. Électricité, charge, bah. Qui donne le pouvoir dans d'autres mains.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot. Donc, il donne du pouvoir dans d'autres mains. Elle interroge en fait nos certitudes sur la nature des femmes qui seraient plus douces et aimantes. Voilà, par exemple. Bon, lire le livre, c'est pas tout à fait vrai, hein, quand même. Et d'ailleurs, elle a des exemples historiques où on se dit oui. Bon, Margaret Thatcher, par exemple, les Anglais, ils l'ont en tête, hein, quand même. Elle interroge notre lien aux religions et aux sentiments religieux. Car, bien entendu, une nouvelle religion de la mère voit le jour, la mère M-E-R-E, voit le jour autour d'une femme s'affirmant sa prophète. Bah oui, forcément, c'est plus un dieu, mais une dieu, enfin une déesse, mais là c'est une dieu, voilà, dieu est une femme, et elle a une prophète, voilà, qui est sur Terre. Elle pose des questions assez franches dans le livre. Si nous avions, nous aussi, la possibilité d'être au-dessus de la mêlée, d'avoir une puissance quasiment infinie, bah qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait si on avait ça entre les mains? Parce que c'est clairement entre les mains. Donc au travers du destin de personnages ancrés dans leur monde, l'autrice, elle va poser les bases de questions assez profondes dans un roman finalement superbement cadencé. Elle ne sait... Oui, parce que le roman, il est sur plusieurs années, et en fait on approche du moment de la bascule, en fait, petit à petit, pouvoir se répandre, tout ça, machin. Donc c'est bien cadencé et c'est surtout très rythmé. Elle se cache d'ailleurs pas, hein, d'avoir été influencée par les écrits et par les conseils de Margaret Atwood, qui est l'autrice de La Servante Écarlate. Voilà, donc voilà. Et on retrouve même la même envie d'interroger le présent par la fiction chez Naomi Alderman. Donc on trouve des personnages loin d'être lisses, hein, c'est le cas d'Ali. Donc Ali, elle a été abusée sexuellement par son beau-père issu d'un milieu traditionnaliste religieux, tiens, qui se réinvente en devenant mère Ève et qui serait donc une prophète. Ah bah oui. Voilà. On croise aussi Roxy, qui est la fille du plus grand mafieux de Londres, voilà, et qui développe des capacités électriques hors normes. On croise aussi Tunde, un journaliste nigérien, un des premiers à mesurer la révolution qui se met en place. Et on croise Margot, qui est la mère d'une petite ville, mère M-I-R-E, d'une petite ville américaine, mais qui se verrait bien gouverneuse et pourquoi pas présidente. Voilà. Bref, on suit des destins forts, hein, qui vont être amenés à se croiser, à interagir, à s'aimer, se détester, s'unir, se combattre. Bref, en un peu plus de 380 pages, on peut dire que le récit n'est pas de tout repos, loin de là. Et la fin est d'ailleurs une vraie surprise, car on ne voit pas tout venir, et je ne vais pas vous la raconter. On ne comprend pas, on comprend certaines choses qu'au dernier moment, et ce qui rend la lecture assez passionnante, parce que du coup, bah, ouais, on est un petit peu dans le rôle de cette personne qui défriche ce qui s'est passé des milliers d'années avant, et puis qui d'un coup comprend. Vous voyez, c'est « Ah, mais oui, ah, mais oui, c'est ça !» Voilà, voilà. Donc du coup, c'est cool. Donc je note qu'à titre personnel, hein, je me suis un peu perdu à un moment dans le livre, mais c'est par manque d'attention. Donc ce que je vous conseille, c'est lisez-le pas dans le TGV, ça marche pas. Voilà, parce que où faut être tranquille. Mais en fait, j'ai repris la lecture du passage et en fait, je me suis dit mais non, c'est moi en fait, c'est pas l'autrice, c'est vraiment moi qui me suis perdu. Mais je me suis perdu parce que je me suis ça arrive hein, des fois quand on lit. Mais vraiment en tout cas, voilà, j'ai relu et ça m'a reconnecté directement et j'ai eu envie de finir le livre en quatrième vitesse. Bref, si vous voulez un livre qui interroge le patriarcat, mais aussi le matriarcat, l'idée de pouvoir en fait, la notion de guerre, la vision du monde actuel et celle d'un monde de demain qui pourrait être finalement, bah, le pouvoir il est fait pour vous. Voilà, c'est un très bon livre et si vous cherchez à expliquer pourquoi justement c'est le pouvoir qui est le problème, bah, c'est vraiment un bon outil. Parce que quand les gens vous disent « mais je comprends pas ce que tu dis bah, », faites-lui lire le bouquin et normalement la personne en face de vous elle va vite comprendre, elle va dire « ah ». Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc moi, je vous le conseille. Ça s'appelle donc Le Pouvoir. C'est donc de Naomi Alderman. C'est chez Kalman Levy. Je crois qu'il a été réédité en poche d'ailleurs entre temps, parce que moi j'ai l'édition grand format. Et voilà. Et juste, je sais qu'il y a une série. Je l'ai pas vue qui est sortie a priori chez Prime. Ouais, qui est une adaptation du livre.
Ok.
Et donc je peux pas vous dire si elle est bien ou elle est pas bien, je l'ai pas vue, mais ça démontre en tout cas que ben le genre d'écrit que fait Alderman ou que faisait ou que fait d'ailleurs Margaret Atwood, ben, commence quand même à interroger. Et on se dit que c'est des outils pas idiots pour aller interroger un peu notre monde actuel. Voilà.
Donc il y a un bouquin qu'on conseille à tout le monde en fait.
Ah oui, franchement. Alors il est en plus il y a pas vraiment bon, il y a un peu de violence dedans, donc je dirais à partir de l'adolescence, mais il est facile à lire, c'est pas compliqué. C'est moi je trouve que c'est bien de l'avoir entre les mains parce que justement bah ça permet de répondre à certaines questions quand on se dit ah, moi je me vengerais bien. Ouais, mais ça veut dire quoi se venger? Ça veut dire quoi en fait prendre le pas sur l'autre? Parce que c'est ça en fait, quand on se venge, on prend le pas sur l'autre. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça amène quelque chose? Est-ce que la loi du talion, ça a un sens vraiment intéressant? Œil pour œil, dent pour dent. Je rappelle quand même qu'Alderman vient de la communauté juive orthodoxe où la loi du talion est une des lois principales. Donc elle l'interroge, elle, d'autant plus dans le livre, plusieurs fois. Et sur des choses très différentes, en plus. Et puis on se surprend, ce que j'aime dans ce bouquin, on se surprend des fois à se dire, putain, bien fait pour sa gueule, et en fait après on se dit, peut-être pas en fait. Voilà, c'est plutôt, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle sait jouer aussi avec nos propres sentiments de lecteur, à nous amener à se dire, ah tiens, t'es content hein, de ce qui se passe, bah regarde, il y a ça après.
Oui, oui voilà. Des fois on peut se satisfaire d'une situation en se disant, ouais. Ah, c'est bien fait pour ta gueule.
Et du coup, je trouve son approche super intéressante, quoi. Vraiment, et je le conseille vraiment à tout le monde. C'est vraiment, ça se lit bien, c'est pas. Et puis, c'est surprenant. Et puis, ça fait du bien, je trouve, d'avoir des autrices féministes qui se cachent pas de l'aide, déjà. Et puis, écrivent des livres où elles osent aller gratter sur les interstices qui nous dérangent et autres que celles qu'on a l'habitude d'avoir dans les grands médias. Je vais dire un truc que j'ai lu et je trouve ça très bien. Il y a quelqu'un qui dit en fait et c'est dit sans méchanceté, mais il y a une autre autrice qui est française qui disait que Margaret Atwood qui a fait La Servante écarlate ou Naomi Alderman, c'est les anti-combini. C'est-à-dire c'est sortir de la superficialité de quelque chose qu'on annonce pour rentrer dans une fois qu'on a dénoncé ça, c'est bien. Mais comment on en sort? Et en fait, ces autrices-là, elles disaient ça en disant que c'était intéressant d'avoir des autrices justement qui grattaient un peu la surface et qui osaient aller mettre les doigts dans ce qui nous dérange. C'est-à-dire que oui, on est content, on se dit ouais, bah ouais, là ça c'est bien, il y a de la castagne et c'est cool. Puis après on dit ouais, mais est-ce que finalement on a vraiment envie qu'il y ait de la castagne comme ça? Est-ce qu'il y a pas d'autre façon de sortir des choses?
Oui, voilà. parce que finalement c'est aussi ça, c'est comment sortir d'un système de pouvoir, quel patriarcat,
sans le reproduire, sans prendre le pouvoir,
sans reprendre le pouvoir et créer une autre société de pouvoir.
C'est ça.
Parce que finalement ça reste une société de pouvoir où des humains OK.
Ouais, vraiment.
Donc le pouvoir de
Naomi Alderman.
Ok.
Voilà, et c'est chez Kalman Levy si vous le cherchez.
Yep. On passe à la ZIC.
Ben oui.
Eh bien, allons-y.
vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu.org et on vient de s'écouter un titre qui n'est pas tout neuf mais qui fait toujours du bien, de Miss Kittin and the Hacker, et c'était 1982, et c'est dans un remix de Vitalik, voilà, et ça date de 2012. Pour être très précis,
ça
a quoi, 12 ans,
c'est pas
une éternité, mais voilà.
Et ben voilà, un petit rendez-vous qui nous semblait intéressant à vous partager, ce sera mardi 27 février, c'est la présentation pardon, du livre Firestar de Adé Rose, avec des lectures d'extraits par Marguerin Le Louvier. C'est en présence de l'auteur et des éditrices et du groupe Dorothy. Et c'est donc avec des discussions autour de l'inceste et des rapports de domination adulte-enfant.
On peut peut-être lire ce qu'en dit l'éditeur.
Ouais.
Donc, avec Firestar, Adé Rose tire une balle dans les jambes de celles et ceux qui regardent leurs pieds. Une écriture dont le style évoque le rap avec ses rimes, sa part de violence, de néologisme et d'égotrip. Outil de lutte contre les injustices et l'ordre établi. Celui de la langue comme celui de l'inceste. Adé a 22 ans lorsqu'il quitte sa famille, écrit Firestar et nous accorde sa confiance pour le publier. Un travail testimonial, rare sur des violences intrafamiliales à la racine des systèmes de domination, un attentat poétique pour ne pas oublier. Lorsqu'en 2021 sa mémoire traumatique se réveille, Adé Rose tente d'obtenir réparation auprès de ses parents, coupables de l'avoir incestué. Face au mur d'omerta auquel il se heurte, il trouve pouvoir dans l'écriture, comme un réflexe de survie pour crier, sans demander la permission, libéré de la honte et des secrets. Un mouvement sans concession pour reprendre sa vie. Voilà.
Et ça, donc, c'est à l'Amicale du Futur. C'est à partir de 18h30, c'est l'ouverture des portes. Et le début de la présentation, pardon, sera à 19h. Et mince, j'allais dire. L'Amicale du Futur, hein, c'est au 31
rue Sébastien Griffe,
dans le 7e arrondissement.
Ouais. Et moi, je me permets d'ajouter un tout petit truc, c'est qu'il y a des gens qui écrivent, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ont envie de laisser parfois des audios. Et ben, la causerie, elle est là pour ça aussi. Donc n'hésitez pas, lacauseriecanu@gmail.com, et voilà, la voix, on peut la récupérer de mille façons, la diffuser de mille façons aussi, mais en tout cas, si vous avez envie, besoin, et vous vous dites, c'est ça qu'il faut que je fasse pour pouvoir briser le mur du silence, et ben n'hésitez pas.
Ouais.
Voilà.
Et aussi briser le mur de la non-écoute.
Oui, c'est vrai.
Et ben voilà, nous on va se quitter, bien sûr, évidemment, en musique. Ouais. Avant ça, on va quand même rappeler deux, trois petites choses.
Bah, tu vas rappeler comment on nous joint.
Mais bien évidemment. C'est-à-dire, si vous voulez nous écrire un mail, n'hésitez pas, c'est à lacauseriecanu@gmail.com. Lacauseriecanu, tout attaché et en minuscule, @gmail.com. Le blog, vous le connaissez aussi ou pas, mais vous pouvez toujours taper dans votre petit moteur de recherche, la causerie Radio Canu.
Ou alors blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie.
Tout à fait.
Et tout attaché.
C'est tout à fait possible.
J'aime beaucoup être tout attaché. Enfin, non, rien à voir.
N'en dis pas plus. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Attends, merde. Ah oui, et aussi.
C'est les podcasts.
Ouais, les podcasts où vous pouvez trouver la causerie sur différents systèmes.
Mais tapez bien la causerie Radio Canu parce qu'il y a plein de causeries maintenant.
Il y a plein de causeries. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, on nous a tout piqué. C'est pas comme si nous on avait pris.
Mais nous aussi on l'a piqué, mais bon.
Non, dans un an.
Oui, mais on était les premiers à le piquer et il y en a d'autres qui l'ont piqué.
Anarchiste, rappelons-le. Et ben voilà, on va se quitter en musique. C'est toi qui as choisi le dernier titre. Fab.
Oui, alors j'ai choisi le dernier titre parce que bon, bah, y a eu la panthéonisation de Missak et Mérimée. J'ai perdu leur nom. C'est Manoukian, pardon. Manoukian. C'est horrible, la radio, des fois on a des blancs comme ça, excusez-moi. Et donc tout le monde se félicitait. Voilà, je ne vais pas dire que c'est bien ou mal. Moi personnellement, le Panthéon, je trouve que ça apporte pas grand-chose. C'est, voilà, mais bon, il paraît qu'il faut passer par là pour que la République nous reconnaisse. Donc,
Que la République se rachète.
Voilà. Peut-être. Et moi, en fait, c'est ça. Bah, c'est un peu le sentiment que ça m'a donné. C'est-à-dire que cette période, on a l'impression que d'un seul coup, on redécouvre qu'il y avait des apatrides parce qu'on leur avait refusé quand même la nationalité française après le génocide arménien. Ils étaient donc en France, mais ils étaient apatrides, qui ont pris les armes pour défendre, alors non pas la France, comme certains le disent, mais pour se lutter contre le nazisme, qui était une idéologie qu'ils exécutaient décret. Et voilà. Et en fait, bah, d'un coup, on redécouvre ces gens, puis on dit, ah, mais c'est marrant, on savait pas qui étaient ces gens. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est quand même fou, parce qu'il y a un gars, alors, avec toutes les réserves que j'ai sur Léo Ferré, qui quand même avait fait une chanson qui s'appelle L'Affiche Rouge, et qui parlait de ces gars, bah, il y a exactement 60 ans. Donc, je me suis dit, bah, c'est quand même fou. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit, ah, bah oui. Et, j'avais envie ce soir, et c'est moi qui l'ai proposé, de vous passer la version de Léo Ferré. Pourquoi ? Parce que non seulement ils ont refusé de la passer, j'ai rien contre Feu Chatterton. Très bien, ils ont fait une très belle reprise. Sauf que l'idée était de dire, on va quand même pas passer un anarchiste pour rendre hommage à des apatrides qui ont combattu le nazisme. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, l'État, il veut bien rendre hommage, mais pas trop. Hein, c'est-à-dire, pas trop, voilà, faut pas déconner. Et je rappellerai que dans le groupe autour de Manoukian, ils étaient 23 à être fusillés au Mont-Valérien, il y avait aussi des gens qui se disaient anarchistes, il y avait aussi des gens qui se disaient apatrides, il y avait des juifs à qui on avait retiré tout droit d'exister, et y compris qu'on voulait tuer et brûler, pour être très clair. Et donc tout ça, en fait, bah, j'ai trouvé que cet hommage, je suis désolé, il était loin d'être à la hauteur de ce qu'il aurait dû être, mais surtout, comme tu l'as dit, Jean-Yves, c'était une façon un peu maladroite et un peu, à mes yeux, dégueulasse, je le dis avec mes mots, pardon, de se rattraper pour cette France qui pendant 80 ans a fait comme si les apatrides n'existaient pas. Et il y a un très beau documentaire qui a été fait et qui a été diffusé sur France 2 et qui est assez critique, ça m'a surpris, où on rappelle quand même qu'on a mis 60 ans en France à reconnaître que ces gens existaient. C'est-à-dire réellement. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment été des résistants, qu'ils avaient vraiment... Voilà. Et tout ça parce que c'était des apatrides et que, bon, ben, les immigrés, c'est problématique, d'après M. Darmanin et d'autres. Et que, ben, moi, à mes yeux, vous voyez, c'est un bel exemple aussi du fait que l'humanité, elle est faite non pas d'où on vient ou d'où on est né, mais de ce qu'on défend.
Oui, oui, et puis c'est toujours intéressant de voir la police aujourd'hui porter au Panthéon des gens qui ont été assassinés par leurs grands-parents.
Ça, c'était horrible.
Oui, mais en tout cas, qui étaient assassinés par la belle police française. Bah,
tu m'obliges à rappeler que c'est la police française qui a traqué tous les gens qui étaient sur l'affiche rouge, qui a traqué le groupe Manoukian, et que c'est pas la Gestapo, et que c'est pas les nazis, et que c'est bien la police française qui a fait le sale boulot. Voilà.
C'est tout à fait ça. On n'a jamais remis en question. Hein, regardez sa belle police.
Les mêmes étaient les libérateurs de Paris 15 jours après.
Ouais, c'est ça.
Bref, voilà, un peu d'énervement.
Donc on se quitte avec l'affiche rouge de Léo Ferré. Nous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 22h sur l'antenne de Radio Canu. N'hésitez pas évidemment à écouter Radio Canu, même si là c'est les vacances. Alors bon, il y a beaucoup de bandes continues, mais écoutez les bandes continues. Il y a très bonne musique sélectionnée par les animateurs et animatrices. Voilà, dans des petites sessions où les animateurs et animatrices proposent des titres
qu'ils aiment.
Évidemment. Donc on se dit à dimanche prochain, 22-23. Bon courage à toutes et à tous.
Et donc Léo Ferré avec l'affiche rouge.
Tout à fait. Des bisous. Ciao.
Des bisous. Salut.
Ciao, ciao.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit dit calmement bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.